Après, le problème des téléphones, c'est que vous l'avez toujours avec vous et que toute votre vie numérique est connectée au téléphone. Donc, la personne qui a accès à votre téléphone a à limite accès à plus de choses que lorsqu'il est sur votre PC.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement ?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue pour le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va parler de hacking, de sécurité informatique, de pirates. Je m'appelle Tom.
Ah sérieux, on va parler de...
Ouais, de la famille pirate essentiellement.
Ah yes, j'adore.
Dessin animé beaucoup trop sous-côté.
Ok. Et on est avec qui, Tom, pour en parler de tout ça ?
Eh bien, nous recevons deux invités experts, un habitué de la maison, déjà, j'ai envie de dire.
Hein. Écoute, ça fait plaisir.
Bonjour, bonjour habitué. Bonjour Hugo Décrypte.
Enchanté, enchanté.
Merci d'être là une nouvelle fois.
Ça fait plaisir.
Ça va bien ?
Ouais, très bien, et toi ?
Très bien.
C'est la combien de émission qu'on fait ensemble ?
Troisième, je crois.
Les deux dernières, c'était quoi ?
Meilleur français.
Meilleur français, ouais.
Meilleur capsule temporel.
Oh, t'es bon.
Yes.
Oh, t'es
bon. Ouais, ouais, moi, c'est mes préférés des épisodes d'Hugo, du coup, je réécoute que cela.
Je les réécoute tous les soirs.
Hugo, pour les personnes qui te connaissent peut-être pas,
ouais.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Alors, je suis youtubeur ou créateur de contenu. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui vise à rendre l'actualité accessible aux jeunes.
Et un menton qui est un micro qui est pas collé au menton, je pense. Non.
Un micro qui est pas. Là.
Vous avez ça aussi, monsieur ? Non.
C'est pas bon là ? C'est pas bon là ?
Non, si, c'est bon.
C'est bon. Ok. Très bien. Mais du coup, voilà, j'ai un chaîne YouTube et un compte Instagram qui vise à rendre l'actualité accessible aux jeunes. Et voilà, je finis mes études en parallèle et puis voilà. Voilà, voilà.
Excellent. Tous les liens seront dans la description.
Yes.
Exact. Mais on a aussi avec nous un spécialiste. Parce qu'on va parler d'un sujet un peu...
Le spécialiste.
Le spécialiste.
Un spécialiste.
Ah. Comment ça, Félix ?
Un spécialiste, donc Félix, chercheur en sécurité pour le compte de Kaspersky, qui est un éditeur en sécurité informatique où on fait des antivirus, on équipe tant des professionnels que des particuliers sur ces solutions. Et voilà, et mon rôle, c'est vraiment de faire de la recherche dans ce domaine, donc découvrir des piratages informatiques, découvrir des pirates informatiques et voilà, et découvrir également tout ce qui est virus, voilà, et les étudier.
C'est vrai que je replace les choses dans leur
replace,
contexte.
Cyrus, replace.
Donc j'ai invité Hugo parce qu'on fait tous les deux partie de la brigade Kaspersky.
Ouais.
Donc Kaspersky avec qui toute cette année on a fait plein d'actions et de vidéos pour sensibiliser les gens à toutes ces problématiques-là. Et donc le podcast s'inscrit un petit peu dans toute cette dynamique.
Est-ce que ce sera un peu le Kaspersky Universe à la manière d'un univers Marvel finalement ?
Exactement.
Et il y aurait Thor dedans. Pour les gens qui ont les informatiques, Thor, le deep web.
Ah oui. J'ai bossé. Ok.
J'ai pas mal bossé le sujet. Je veux pas.
Très très bon.
Je suis calé quoi.
Il a une liste de vannes.
Yes. Toujours.
Il a calé dans le.
Bah, il y en avait une seule dedans et ouais. Ça y est, elle est sortie.
C'était mon post-it de vannes est épuisé déjà.
Mais d'ailleurs, il en a des vannes effectivement et c'est le moment de nous les raconter, Tom. Est-ce que c'est pas ton édito ? Est-ce que c'est pas l'éditom ?
Allez.
Oh. La persistance du chaos. Est-ce que ça vous parle ? Alors non, ce n'est ni le nom du nouvel album de Fauve ou de Damien 16, mais c'est bien une œuvre d'art vendue 1 340 000 euros aux enchères qui prend la forme d'un PC contaminé par les 6 virus les plus dangereux du monde. 1 340 000 euros pour un PC infesté par 6 virus. Clairement, l'ordi de Madarone, il vaut facile 3 milliards. Mais la persistance du chaos, elle a un énorme impact, hein, et pas seulement financier. Bah, elle fait passer les profs de technologie devant les profs d'art plastique dans le classement des profs qui servent à rien au collège. Bien sûr, j'exagère, hein, l'art plastique est une matière hyper importante, hein, qui te permet d'avoir un 18 sur 20 rien qu'en éternuant dans de la gouache et en appelant ça métaphore de mes pensées étriquées. Mais pour les profs de techno, sérieux, bah, quelle revanche sur la vie quoi ! Ils deviennent enfin bankable ! Parce que c'est quoi en vrai la vocation d'un prof de techno ? Ton objectif professionnel ? Parce que ton temps de travail, il est divisé entre faire de la soudure et des tableaux Excel, hein, ça n'a aucun lien. C'est comme devenir kiné magicien ou boucher trader, il n'y a pas vraiment de porte de sortie quoi. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus dans cette œuvre, hein, la persistance du chaos, c'est quand même de savoir sur quel site a traîné l'artiste pour choper ces virus. Hein. Est-ce qu'on n'a pas enfin trouvé la personne qui cliquait sur les pop-up chelous des sites porno ? Non mais sérieux, qui clique vraiment là-dessus ? T'as des trucs hyper crus et hyper directs, genre plein de meufs veulent baiser avec toi, clique ici. Non mais qui se dit réellement ? Attends, c'est à moi qu'elle parle, c'est peut-être vrai ? Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, allez, on va prendre une grande échelle, genre une semaine, en une semaine, combien de personnes que tu ne connais pas vont te dire qu'elles veulent coucher avec toi, alors qu'en plus elles peuvent te voir, hein, te connaître, te désirer. Et là, au bout de 3 minutes en ligne, sans que personne ne te parle ou ne te voit, Mais t'as déjà 5 invitations et des bunga bunga. Mais bon, il faut quand même rappeler que bien se protéger quand on est sur Internet, c'est important, car on pourrait choper tout un tas de virus, ou pire, rendre public nos discussions Messenger. Après tout, ça, ce n'est que mon point de vue sur le piratage informatique et les hackers. Et tiens, d'ailleurs, c'est quoi exactement la définition d'un hacker, Félix ?
Alors pour moi, je fais quand même la différence entre hacker et pirate informatique. Aujourd'hui, je travaille vraiment sur des pirates informatiques, des groupes de pirates. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire du cyberespionnage, qui vont espionner des États pour le compte d'autres États. Ou sinon, ça va être des gens qui vont vouloir voler de la monnaie pour leur bénéfice personnel. Ensuite, on a des hackers où là, c'est un peu plus, on va dire, la transformation de la société. C'est essayer de changer un peu de modifier des objets, de faire par exemple de l'impression 3D, de l'électronique, etc. pour inventer de nouvelles choses et essayer d'optimiser certains objets ou même certains processus. Ça ne s'applique pas que à l'univers technique, mais ça peut également être sur des processus dans la société ou autre et se dire tiens, ce serait mieux si on...
C'est ce qu'on appelle un life hack, c'est ça ?
C'est ça, on peut dire ça.
Le mot est lancé en tout cas.
Non mais ça existait, genre des life hacks pour... étendre son linge par exemple.
Oui, ou avec les brosses à dents sur YouTube. Ou, ouais,
exactement.
Les 100 tricks pour rendre ta vie meilleure. Ouais, exactement.
Il y a un petit life hack que tu veux partager sur les impressions, non ?
Là tout de suite, non.
Pas de
mais
hack,
attends, je suis sûr que je peux en trouver hein, des life hacks. Le coup de l'allumette quand ça pue dans les toilettes. Mais ça,
quoi ?
C'est...
Ouais.
Tu connais pas ça ?
Non, moi je connais pas. Mais ça pue pas dans mes toilettes, donc j'ai pas le problème.
Oh, monsieur, ça y est, monsieur.
C'est quoi le truc des allumettes ?
Attends, tu connais ça ?
Oui, mais tu craques une allumette pour
Félix, tu
disperser les odeurs,
ouais.
Quoi.
Voilà. Ah, tu connaissais pas,
Hugo ? Non, je sais pas.
Ok, life hack.
Ok, merci. Craquer les allumettes.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des petites boîtes d'allumettes
dans
leurs
toilettes.
Ok.
Sans bougie, tu t'es pas posé la question de te dire.
Ouais, j'avoue, ouais, non, ouais, j'avoue.
Ouais, bon.
Ouais, très bien, ok.
Voilà. Life hack. Voilà.
Donc, du coup, si on revient sur des trucs un peu plus sérieux. Donc, Félix, donc pour toi, le hacking, ça a une portée qui est pas seulement informatique, pour peut-être un peu faire la différence entre un pirate informatique qui a une visée 100% technique, technologique. Le hacking, c'est peut-être un état d'esprit et une attitude plus globale, finalement.
Oui, on peut dire même que les hackers sont les premiers, on va dire, des créatifs. Par essence, ils créent. Ils créent, ils modifient, ils remodifient ce qu'on leur propose. On a des gens qui font du hacking de meubles IKEA, par exemple, qui essaient à partir d'un meuble IKEA d'en créer d'autres. Bah, ça reste du hacking. Ou, je me souviens, mais il y a bien 15 ans, c'était, on reprenait un magnétoscope, on en faisait un distributeur de nourriture pour chat. Wow. Un magnétoscope, c'est là où il y avait les cassettes VHS. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc voilà, on en arrive là. Et voilà, le hacking, c'est vraiment en termes de créativité. Il y a beaucoup aujourd'hui d'ailleurs d'artistes qui mettent le hacking en avant pour leur créativité. En termes, ils utilisent des Arduino, des Raspberry Pi, etc. pour leur œuvre d'art.
Et d'ailleurs, j'étais à San Francisco il y a un an et pour une série de reportages. Et j'avais fait un reportage à San Francisco sur un hackerspace, donc c'est un lieu où des gens se réunissent pour bidouiller tout un tas de choses. En fait, tu rentres dedans et donc le reportage est sur ma chaîne. Et en gros, tu...
Ah, la promo, ça commence.
Je cale le petit.
On lui donne 2 000
c'est fou, hein,
c'est fou. Et il nous vend du jambon. Non. Hein, c'est ça y est. Hein.
Non, mais en gros, c'est super intéressant parce que Silicon Valley, c'est connu comme étant l'endroit, tu vois, des GAFA, l'endroit vraiment de... le truc c'est pas du tout open source et justement là le hackerspace c'est un peu l'inverse et c'est se dire on va faire avec le matériel qu'on a, on va construire des objets, on va construire des choses et quand tu rentres ici tout ce que tu peux utiliser tout ce que tu veux pour bidouiller quelque chose et créer quelque chose avec l'imprimante 3D qui est à disposition, avec les ordi qui sont là, avec le matériel quoi.
Est-ce que c'est un peu comme un Fab Lab mais orienté
c'est
hack?
Ouais, c'est un peu ça et tout est open source.
Un
et
Fab
tout
Lab
est,
je pense qu'il faut définir.
Ouais, c'est ce que je me suis dit peut-être en
parce que moi je sais pas déjà ce que c'est.
D'accord. Alors un Fab Lab en gros c'est des lieux où souvent tu as un abonnement ou souvent ça marche par abonnement où tu as par exemple des imprimantes 3D, tu as une scie, une thermoplieuse pour rappeler les cours de techno, enfin bref, tu as plein de choses comme ça et tu arrives, tu as un projet en tête et en fait à plusieurs avec les autres gars qui travaillent dans le Fab Lab, on t'aide à mettre en place ton projet quoi.
OK, cool.
Et ça peut être hyper cool. Ouais, ça peut être genre comme disait Félix, un meuble IKEA. Enfin, un meuble, du coup, pas IKEA, parce que c'est toi qui vas le faire. Un meuble où ça peut être un truc qui n'a rien à voir, genre...
Des tours de magie
Pourquoi pas. Allez, tours de magie. Non, mais tu vois, ça peut être très varié, quoi.
Ok.
Et c'est hyper... créativement, c'est hyper stimulant.
Ouais.
Ok. Du coup, juste pour faire rebond sur ce qu'on disait sur le hacking, c'est vrai que c'est effectivement, donc, comme j'ai dit, j'ai vachement bossé cette émission. Non, j'ai fait des recherches, c'est vrai que le terme est apparu avant Internet en fait, et que c'est vraiment cette idée de se réapproprier des choses. Et d'ailleurs, petit fact, le premier cas de hacking reconnu, en tout cas, date de 1834, avec du hacking de télégraphe. Il y a un monsieur qui s'appelle François Blanc qui avait trouvé une faille dans le code employé par le télégraphe de Shea pour faire fortune en faisant circuler des informations relatives aux cotations boursières. Du coup, le mec avait hacké le télégraphe.
Et Félix savait ça.
Oui, Félix
alors,
savait
je le savais. Et
vu
même
le mot qui vient,
son
c'est
hochement.
Node qui vient.
Hochement
de tête.
Voilà. Non, mais ça a été fait voilà, pour ça. Ça a été fait aussi sur les paris parce que les résultats des paris arrivaient. Plutôt, ils avaient trouvé des manières pour faire arriver les résultats beaucoup plus rapidement que les des simples télégraphes ou autres. Et voilà, on avait des premiers hackings là-dessus. Et ce qui se faisait en fait, c'est il faisait des on va dire des interceptions entre télégraphes, des interceptions visuelles où il changeait en fait la donnée entre deux télégraphes. C'était le début du hacking. Et après, il y a eu quand il y a eu la téléphonie, ça a continué, etc. Et avec l'avènement d'Internet, là, ça a révolutionné un peu cette discipline.
Ouais. C'était plutôt des motivations un peu malveillantes, en tout cas à l'origine de cette réappropriation et de ce hack. Hugo, est-ce que pour toi le hacking c'est quelque chose qui est forcément négatif ou pas?
Je pense que justement aujourd'hui il y a de plus en plus de hackers qui décident aussi de travailler avec des entreprises avec lesquelles elles sont en accord d'un point de vue des valeurs, mais typiquement on a des sites qui s'appellent de bug bounty où en gros des hackers peuvent aider des entreprises ou des institutions à se protéger et donc à voir s'il n'y a pas des failles dans leur système de sécurité. Je sais qu'il y a des plateformes comme ça, il y a YesWeHack, il y a Yogosha, il y a pas mal de plateformes comme ça. Je parle sous contrôle Félix.
Ouais, il y a HackerOne aussi.
Voilà, peut-être. Troisième. Voilà, donc non, aujourd'hui je pense que, et d'ailleurs même il me semble que les gouvernements et les gouvernements partout dans le monde se recrutent des hackers aussi pour protéger la population et toutes les données parce que des hackers sont très expérimentés là-dessus en matière de cybersécurité et ça peut arriver que... Voilà,
mais je veux pas dire de conneries, mais il me semble que même, je me souviens que j'étais allé sur le Wikipédia de Kaspersky, etc. Et Kaspersky aussi paye, non, si quelqu'un trouve une faille...
Alors on a une politique, oui, ce qu'on appelle le bug bounty, c'est-à-dire si vous êtes assez curieux et que vous cherchez... sur nos produits des vulnérabilités, et si vous en trouvez évidemment, on peut vous rémunérer à la hauteur de la, on va dire, de la criticité de la vulnérabilité, c'est-à-dire que si c'est ce qu'on appelle un RCE, alors là c'est des termes techniques, mais si la personne arrive à trouver une vulnérabilité qui lui permet de prendre le contrôle d'un des utilisateurs de notre solution antivirus, de son ordinateur, là il va être rémunéré, genre je pense que c'est 150 000 euros à peu près.
Pas mal.
Vous savez quoi faire de votre week-end. Mais ouais, tu l'as dit, il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Il y a Tesla notamment aussi, là, qui Musk a dit celui qui arrive à pirater la Tesla, je lui en offre une, quoi.
Même Apple, hein. Apple a promis $1 million, c'était il y a quelques mois, a promis $1 million à ceux qui pourraient hacker l'iPhone. Donc ils sont tous un peu dans ce jeu-là. Et je pense que c'est aussi, j'imagine, pour montrer que, je pense dans le regard des gens, c'est l'histoire de dire, regardez, si jamais ils sont prêts à donner $1 million à celui qui arrive à le hacker,
c'est qu'ils sont vraiment sûrs.
C'est qu'ils sont sûrs que ça fonctionne.
Le problème avec ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des sociétés en fait qui payent beaucoup plus qu'Apple pour les failles qui affectent en fait les, par exemple les devices iOS, etc. Donc les iPhone, iPad. Et en fait, ces sociétés donc achètent la vulnérabilité et la revendent à d'autres personnes, soit des services de renseignement ou autres. Donc eux, au lieu que ce soit 1 million, ils vont l'acheter 2 millions, mais bon, ils vont se faire 4 ou 5 millions.
Ah, c'est incroyable,
c'est trop stylé. En tu trouves une faille et après tu réfléchis à où la vendre.
Je trouve qu'il y a un vrai truc, notamment donc, du coup, avec cette séparation qui existe un peu, où on appelle d'un côté les white hats et de l'autre les black hats, qui sont un petit peu, donc du coup, les white hats, c'est les hackers du bien. Pour caricaturer les black hats,
chapeau blanc, chapeau noir.
Voilà, chapeau blanc, chapeau noir. J'ai pas un accent anglais de ouf. Voilà, je sais, merci Cyrus.
White hat.
8 ans de psychothérapie pour ça.
Black
super.
Hat.
Non, mais du coup, je trouve qu'il y a un peu un parallèle avec. C'est un peu la force dans Star Wars. C'est-à-dire que t'as la force, c'est de savoir hacker et
c'est
faire
les
des
Jedi
trucs.
Et les Sith. Quoi.
Et maintenant, ok, est-ce que je me laisse pas avertir? Est-ce que j'en fais qu'à ma tête? Ou au contraire, est-ce que j'emploie ma force au service du bien? Et donc, notamment du activisme aussi.
Bah du coup, Félix, est-ce que t'as un white hat ou pas?
En fait, cette différenciation existe plus trop de nos jours. Ça a été une différenciation un peu médiatique au départ.
Il t'a détruit là, Tom.
Wow. Mais,
Tom est en PLS.
J'avais posé mon lundi pour cette info. C'est pas du tout rentabilisé.
C'est C'est vraiment aujourd'hui, on parle plus voilà, de White Hat, de Black Hat, parce qu'il y a des bug bounty, parce que tout le monde fait un peu de tout. Mais voilà, en tant, par exemple, moi en tant que chercheur en sécurité, et même tous ceux qui veulent vraiment travailler dans cette discipline, c'est mieux de pas trop faire de conneries, voire de pas en faire du tout. Parce que voilà, souvent, quand on travaille en sécurité informatique ou autre, on demande ensuite notre casier judiciaire, notamment pour travailler dans certaines entreprises ou pour des gouvernements ou autres. Ouais. Donc, il vaut mieux ne rien avoir dedans, quoi.
Tom, avant qu'on passe au cœur de l'émission, qui est finalement le meilleur hacking,
bien sûr.
Est-ce que ce n'est pas le moment où... parce qu'on a fait un questionnaire.
J'allais parler de la même chose.
Ah là là,
c'est fou hein, ça. C'est on fou. Est connecté. bien ouais. Malin, celui qui arrivera à hacker notre connexion entre toi et moi. Hein.
Ah, j'y crois pas, il se roule. Non mais c'est vrai que plusieurs fois on nous a demandé les écouteurs du meilleur podcast nous ont demandé ouais ça serait cool de participer etc machin et on s'est dit tiens ça peut être intéressant de faire un
je crois qu'on dit auditeur par contre
j'ai dit quoi
écouteur
ah ouais
abonné,
pas
voilà, écouteur ouais voilà.
Mais bon après
ça se met dans les oreilles
ouais, non, mais...
les deux se mettent dans les oreilles
pas de jugement hein, pas de jugement
et on s'est dit que ça peut être marrant de leur faire un questionnaire etc et donc on a envoyé un questionnaire on a eu pas mal de réponses
sur notamment les habitudes de connexion et de sécurité informatique.
Exactement.
L'idée, ouais, parce que là on a beaucoup parlé.
C'est un test, hein, on n'a jamais fait ça et
oui.
Tout.
Ça se trouve, ça, les réponses des gens sont pas ouf.
Ou ça se trouve,
wow.
Nous, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Écoutez, si.
Non, mais où ça se trouve, l'effet de les commenter, on sait rien. On va voir.
Mais on tente. On veut donner un peu d'interaction aussi dans ce podcast, c'était le moyen d'en faire.
Exactement.
Parce que l'idée c'était un peu de passer, on a eu du coup cette discussion un peu généraliste et maintenant rentrer un peu dans le détail et voir maintenant comment on peut aujourd'hui se protéger, en tout cas d'attaque et notre rapport. À notre identité virtuelle en tout cas.
Alors on a posé une question, on a demandé si les gens ont déjà été victimes de hacking.
Combien de réponses Cyrus à peu près, juste pour qu'on ait une idée.
500
réponses.
Ouais.
Pour qu'on ait juste... un ordre d'idée.
Okay.
Il n'y a que 8 questions. Il y a que 8
allez.
Questions.
Allez, vas-y Cyrus.
Allez, vas-y, on peut lancer.
Tom il en peut plus.
Allez, vas-y, on a envie de savoir.
On a d'abord demandé si les gens ont déjà été victimes de hacking. Il y a 65% de gens qui ont dit non. Il y a 18% de gens qui ont dit je ne sais pas. Et 15% qui ont dit oui. Alors si les gens additionnent, ils vont dire ça fait pas 100%, mais parce que j'enlève les virgules, machin, etc.
Pour moi, en fait, faudrait inverser les résultats. Je pense que les 65% des premiers qui disent non, j'ai pas été hacké, le savent pas, tout simplement. Il y a des sites pour ça.
Les gens sont en PLS chez eux, là.
Comment on peut détecter, c'est quoi les signes d'un hacking ou d'un piratage? Qu'est-ce qui donne mal la puce à l'oreille? On doit se dire.
Alors généralement, tu le détectes pas parce que toute ta vie est en fait sur Internet aujourd'hui. Généralement, on va pas rentrer dans ton ordinateur, c'est plus l'inverse. On va rentrer sur essayer de voler la base de données d'un des réseaux sociaux où t'es, etc. Et donc là où on peut le détecter, c'est que généralement ces bases de données se retrouvent un peu à l'air libre et fuitent sur Internet. Et on a des sites internet qui référencent ces bases de données où vous avez juste à mettre votre adresse email.
Ouais.
Ça s'appelle I've been pwned.
Ouais.
Et ça vous dit, est-ce que votre adresse email a été piratée avec votre mot de passe ou pas et dans quelle base de données elle se retrouve.
Tous les liens dans la description d'ailleurs. Dans la description du podcast.
Sérieux, ça fait le lien de en dessous.
Ouais,
comme
c'est
ça,
que
vidéo,
je me suis cru sur YouTube. Ouais. Donc on peut pas savoir en fait si on est hacké sauf si on va sur I've been pwned.
Vous pouvez, avec un antivirus, vous pouvez sinon essayer de savoir quel site s'est fait pirater. Là, vous vous dites « Ah mince, j'étais inscrit sur ce site ». Et généralement, maintenant, les gros services web envoient quand même des notifications à leurs utilisateurs. Changer
temps,
le mot de passe, le problème, c'est que ça fait très phishing, d'ailleurs hameçonnage.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le phishing rapidement, ou au moins définir
Alors, le phishing, c'est assez simple. Donc, en français, c'est hameçonnage. C'est tout simplement, je pense que la plupart de vos auditeurs connaissent ça, c'est l'envoi de mails malveillants. On va vous demander de changer votre mot de passe, plutôt inventer un prétexte pour que vous rentiez votre ancien mot de passe et votre nouveau mot de passe, par exemple. Aujourd'hui, on parle de phishing par email, mais on en a par SMS, on peut en avoir par téléphone, par tous les vecteurs, vous pouvez vous faire avoir.
Ok.
Et ça s'écrit PHISH et non
c'est
exactement.
La pêche, ça va avoir.
Bah si, c'est l'hameçonnage, finalement.
Oui,
en
vrai, c'est ça.
Mais moi, je me dis, si je suis pas, si je suis pas Cyprien, tu vois, parce que autant Cyprien, je comprends qu'on veuille pirater son compte YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Et donc lui, je comprends qu'à mon avis, en termes de sécurité, enfin ce genre, ouais. Cyprien, Squeezie,
son
etc.
Son ordi dans un coffre-fort gardé par des chiens. Enfin,
je sais pas comment ils font.
Il y a un vrai bail, je pense.
Ah ouais, voilà, je sais pas comment ils font.
Les gens racontent que c'est au Fort Boyard qui enregistre tous ces podcasts pour vraiment. Enfin, c'est les gens d'Urbaine, quoi. Après, je veux pas.
Les gens racontent qu'il est encore en train de faire son mot de passe là. Vraiment, il est encore en train de l'écrire.
Il a demandé à Google d'inventer des lettres en plus pour créer son mot de passe. C'était trop compliqué.
Mais tout ça pour dire que. Ces gens-là, je comprends ce truc de, ils doivent faire attention qu'un hacker détourne pas leur numéro de téléphone, etc. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'un mec comme moi, personne va s'intéresser à détourner mon numéro de téléphone pour choper mon compte YouTube, tu vois.
Personne, plutôt, on sait pas ce que t'as caché. Hein. Mais sinon, non, tu peux être la victime en tant que YouTuber, mais aussi en tant que particulier, ça peut arriver. C'est pas. C'est assez fréquent aujourd'hui qu'on ait des attaques comme ça, même sur des particuliers à peu, voilà, on sait pas trop leur métier ou autre.
C'est pour de la thune qu'ils le font ?
C'est pour de la thune, bah c'est tout ce qui va être sur des virements bancaires, récupérer des comptes en banque ou autre, voilà. Ça peut être réalisé, mais généralement, ouais, c'est quand même des gens qui ont une solide réputation. Plutôt récemment, il y a eu le patron de Twitter, Jake, si je me souviens bien, Jack Dorsey, qui avait été piraté par cette méthode. Mais voilà, c'est un peu plus le challenge en mode tiens, ouais, j'ai réussi à le pirater que quelque chose de vraiment malveillant.
Après, j'avoue que je dis ça et paradoxalement, je reçois assez souvent des mails qui disent. On a essayé de pirater votre compte Facebook.
Bah ça, tu me les transmets et je vais mettre les indicateurs en blacklist dans notre solution. Mais ça peut largement arriver. Je pense que plusieurs de tes abonnés doivent sûrement s'amuser à ça. Ouais.
Ok. Bah, ils peuvent se désabonner s'ils veulent. Hein,
on continue avec le petit questionnaire.
Ouais, on continue avec le petit questionnaire. Donc, on a vu qu'il y avait 65% des gens qui n'ont pas été victimes de hacking. Et pourtant, dans « Avez-vous peur de vous faire hacker sur votre ordinateur ?», on a 61% des gens qui disent oui. Et « Avez-vous peur de vous faire hacker sur votre mobile ?», on a 63% des gens qui disent oui.
Ce qui est assez proche finalement. Enfin, la peur est la même.
Ouais, bah, j'avoue, ça m'étonne. Je pensais que les gens avaient plus peur sur ordinateur que sur mobile. Mm. Est-ce que c'est, en termes de fréquence de hacking, est-ce que ça arrive aussi souvent sur mobile, ordinateur ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Aujourd'hui, un mobile est assez complexe à pirater. Parce que les gens regardent des films beaucoup sur ordinateur ou autre, et donc tu peux on appelle ça social, bref, leur faire apparaître une pop-up pour télécharger un malware ou autre. Ça, c'est, pour un mobile, il va vraiment falloir soit qu'ils téléchargent une application malveillante, notamment c'est sur Android, soit qu'ils utilisent une vulnérabilité. Après, le problème des téléphones, c'est que vous l'avez toujours avec vous et que toute votre vie numérique est connectée au téléphone. Donc la personne qui a accès à votre téléphone a limite accès à plus de choses que lorsqu'il est sur votre PC.
Je pense que c'est pour ça qu'on a peur aussi. Enfin, peur du smartphone, c'est qu'on se dit si je me fais hacker et que quelqu'un a accès, je sais pas, à ma caméra frontale, en fait, il me voit tout le temps ou il a accès à mon micro tout le temps. Donc, je pense que c'est des choses qui font beaucoup plus peur qu'un ordi qu'aujourd'hui on utilise peut-être moins et peut-être de façon moins intime, quoi.
Et ça me fait penser à un épisode, je crois, d'un podcast qui s'appelle Reply All, mais je suis pas sûr que ce soit celui-là, où en gros, c'est deux gars et il y a un des deux qui a piraté l'autre. Avec son accord sur son téléphone. Et en fait, il a installé une application spyware. Donc, un spyware, un logiciel d'espionnage, entre guillemets.
Pas peine de me regarder à moi chaque fois. Je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui, comme moi, potentiellement, ne maîtrisent pas tout ce vocabulaire.
Non, mais c'était par rapport à ton accent sur White Hat que du coup, je préfère te regarder.
Allez,
toi,
on retourne le couteau dans la plaie, super. Génial.
Mais, et donc, en gros, c'était assez intéressant et un peu flippant. Parce que du coup, le gars, il lui a dit, voilà, donc ça fait une semaine que j'ai le spyware et tout, et voilà ce que j'ai chopé sur toi. Et donc, on a des passages audio du mec qui ne sait pas, malgré lui, qu'il a enregistré. Et donc, il dit, donc là, t'es dans ta voiture, t'es tout seul, et tu tapes une barre. Et donc, on entend le mec qui est tout seul dans sa caisse en train de rigoler et tout, et le gars, il fait, waouh, c'est ouf, j'avoue, j'ai l'air d'un psychopathe, etc., machin. Et à un moment, il lit des messages et tout. Il dit, là, on croit que t'as une affaire. Enfin, on croit que tu trompes ta femme, tu vois. Alors que moi, j'ai le contexte, pas du tout. Je sais que c'est pas le cas, etc. Mais sur cette partie, on pourrait avoir cette impression. Et bref, c'était assez intéressant. Je vous mets le lien en description. Encore une fois. Et encore une fois, je refais le
swipe vers le bas.
Je continue, Tom.
Avec plaisir.
Alors après, on a demandé aux gens de noter sur une échelle de 1 à 5 leur niveau de protection.
Moi, j'ai voté aussi. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Juste, j'avais un peu peur de le dire dès le début. Il y a moi aussi dans ces réponses, quoi.
Ça fait plaisir.
Voilà.
Et la moyenne, elle est de 2,8. sur 5. Donc les gens se considèrent comme étant assez protégés quand même, enfin plus de 2,5 en tout cas. Mais par contre, à quel point ils pensent être hackables, ils ont mis en moyenne 3,1. Donc ils se pensent en moyenne plus hackables qu'ils sont protégés. Ça veut dire qu'en gros, tout le monde se sent vulnérable, tu vois. La moyenne se sent vulnérable.
Il n'y a que 2% des gens qui ont dit qu'ils étaient à 100%, enfin, ils mettaient à 5 sur 5 leur niveau de protection.
C'est Félix qui a voté, je crois.
Ouais.
Non, ils ont juste pas Internet.
C'est 2% écrivent à Félix et qui lui lancent un challenge et qu'on fasse un défi.
Non, moi, par exemple, sur I've Been Pwned, j'ai mes emails voilà, aux 80 sur Internet. Oh. Bah oui, c'est... Dès que tu es un utilisateur régulier d'Internet et que tu es sur énormément de réseaux sociaux,
y a pas 100% de...
si tu as téléchargé un logiciel ou autre.
Moi, je ne suis pas, par exemple.
Bah, bravo, tu l'as créé quand ton adresse email il y a quelques
mois.
Ah non,
j'ai testé sur les deux. J'ai testé sur mes deux adresses les plus utilisées. Et il y en a une qui date il y a hyper longtemps. Il n'y a rien, quoi.
Félicitations.
Mais du coup, comment on fait pour savoir si Ivimpon a été hacké?
C'est ça le problème.
Ouais,
j'avoue, c'est ça qui me rend
ouf. C'est un problème et ça peut être intéressant d'ailleurs de se poser la question parce qu'ils ont énormément de bases de données.
Ce site-là, si je dois hacker des trucs, je commence par celui-là, quoi. Tu récupères toutes les adresses mail, tout le monde pense que tout va bien. T'es hyper bien, quoi.
Leur donne pas d'idée, Tom. Ouais. Leur donne pas d'idée. Après, on a demandé qu'est-ce que les gens craignent le plus lors d'un hacking. Et il y a 17% des gens qui ont voté pour un blocage de tous leurs appareils. 37% diffusion d'informations privées.
Et de données, oui.
Et de données, genre, je sais pas, par exemple, des photos. J'avoue, j'aurais pensé que c'était plus. Moi, j'aurais pensé que c'était le premier.
Non,
moi,
le premier, c'est attraper un rhume, ce qui finalement est.
Et
assez
le premier,
étonnant.
C'est attraper un rhume.
Ouais.
Non, le premier, c'est vol ou extorsion d'argent à 43%. J'avoue, moi, j'aurais pensé que c'était vraiment le vol des données privées, genre. Les photos leakées, etc. Avec...
Mais as-tu des choses à te reprocher? Non. Franchement, ouais. Pour moi, c'est aussi ça, c'est le vol de données privées. Et évidemment, quand tu es en train d'écrire une thèse ou un mémoire et que tu te vois ton ordinateur totalement chiffré par un logiciel malveillant, c'est sûr que c'est pas très bon non plus, quoi. Donc, les deux. Et aujourd'hui, on a des banques aussi qui remboursent beaucoup le vol d'argent.
C'est ça.
Autre, donc,
quand j'en parlais, quand on a fait le sondage, etc., moi, on me disait, à mon avis, les gens, ils mettent pas vol ou extorsion parce qu'ils savent que c'est. Globalement, on a des assurances et que très vite, ta banque peut te rembourser, quoi. Alors que le vol de données. Franchement,
ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc où on sait déjà qu'on y est confronté, tu vois, avec toutes les conditions générales d'utilisation qu'on a, on sait déjà que nos données, j'ai l'impression qu'on en est déjà un petit peu détaché, où on sait qu'on a un contrat.
Mais là, on parle pas de ça, on parle de si par exemple, une photo nue de ta meuf, quoi.
Ouais.
Ou de toi.
Ouais.
Moins intéressant.
oui, bien sûr, mais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est déjà un peu habitué à avoir nos photos un peu partout et que c'est quelque chose qui, il y a quelques années, peut-être que ça aurait été un peu différent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu plus à l'aise avec cette idée de se dire que déjà nos photos, nos données, elles sont quand même relativement publiques, quoi.
Je sais pas, parce qu'en même temps, quand il y a eu le leak avec c'était Jennifer Lawrence, il y a eu Emma Watson.
Fappening.
Ah, c'était pas ça, Fappening.
Ouais, c'était le
Fappening. Ouais, je pense que ça s'appelait comme ça.
Ouais. Ça, je connais hyper bien, si on veut...
Arrête, Tom,
pardon.
C'est gênant.
Pardon.
Et ben, quand il y a eu ce leak, franchement, ça a choqué pas mal de monde, parce qu'en plus, c'était via iCloud, etc. Alors que Mac et Apple, ils ont un peu une image de pas de virus, pas de brèche, etc., machin. Je me souviens que ça avait un peu surpris, quand même. D'ailleurs, Félix, on en pense quoi de ce mythe-là, que Mac, iPhone, etc.,
Ouais, alors aujourd'hui on peut rentrer dans un Mac comme on rentre dans un PC.
Je croyais que t'allais dire comme dans un moulin.
Oui,
ouais, carrément.
quasiment.
Donc, comme dans un PC.
C'est, voilà, les Mac évidemment sont sujets aux virus, sont sujets aux attaques, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant tout ce qui va être Android, il y a eu des efforts de fait de la part des développeurs d'Android, il y a pas mal de sécurité, mais ça reste toujours un peu plus vulnérable qu'iPhone.
Ok.
Dernière question.
Et la toute dernière question, c'était quels outils de protection utilisez-vous? On m'a très justement dit qu'on n'a jamais mis, on n'a pas mis zéro, aucun outil.
C'est
donc,
vrai.
Mais les gens, il y avait autre, donc les gens ont peut-être mis autre. Il y a 20% de autre, donc on peut partir du constat que
c'est difficile quand même parce que ça se trouve, soit c'est rien, soit c'est beaucoup
et
de choses.
On fait pas beaucoup de, on fait pas souvent de questionnaires.
Non,
okay.
C'est la première fois, ok. On apprend nos erreurs.
Mais il y a 16% qui ont un VPN. Je sais pas à quel point c'est utile.
Un VPN, ça va vous servir juste à masquer votre IP par rapport au service que vous allez utiliser, c'est-à-dire que, on va dire, Facebook ou Netflix aura pas votre vraie adresse IP. Et comme ça, vous pourrez regarder des vidéos qui sont que disponibles aux États-Unis. Mais À côté de ça, un VPN n'a pas de vraie sécurité. C'est-à-dire que les virus, évidemment, vont pouvoir communiquer même si vous avez un VPN d'activé.
Ouais.
Voilà, c'est pas une sécurité en plus. C'est juste se masquer l'origine vraiment des flux Internet vers un service.
C'est genre, en gros, au lieu de dire, genre, je prends la ligne 2, mais en fait, je prends la ligne 3, quoi. Hop, ni vu ni connu.
C'est ça.
Non, en fait, je prends le bus.
Ouais, c'est ça. Ok, ensuite on a le bloqueur de spam.
Bloqueur de spam, 38%. C'est une sorte d'adblock.
Ouais, exactement. Parce qu'en gros, on se disait qu'il y avait aussi pas mal de
gens qui veulent pas avoir de pubs sur YouTube.
Non, mais de malware qui viennent via les pubs et via les pop-up, etc.
Alors, ouais, ça on en a pas mal. Des cas où en fait des attaquants vont pirater des régies publicitaires et donc sur tous les sites où sera affichée la pub, en fait, ils vont infecter les visiteurs. Ça peut arriver, il y a eu des assez grosses attaques dans le passé via ça. C'est ce qu'on appelle le malvertising dans le jargon technique.
Stylé comme
mais voilà, donc c'est toujours bien d'avoir, on va dire, un bloqueur de pub ou un bloqueur, on va dire, de JavaScript sur son navigateur pour entraver ce type de tentative de compromission.
Ok, et on a 76,7% des gens qui ont un antivirus.
Waouh,
c'est énorme.
Ah ouais.
Mais est-ce qu'on
ouais.
considère peut-être sur Mac, comme on l'a dit avant, il y avait cette légende que les Mac étaient un peu impénétrables. On se dit, il y en a un d'office dans Mac et du coup ça compte.
Il n'y en a pas un d'office.
Il n'y en a pas un d'office dans Mac.
Mac est déjà plutôt et assez sécurisé. Nous, on a des solutions pour Mac, mais le problème
donc,
en fait,
nous, je répète que je.
C'est Kaspersky.
Exactement.
Ouais. Après, le problème de Mac, c'est un peu comme Windows ou autre, c'est que n'importe quel utilisateur peut installer n'importe quelle application. Le problème, c'est que généralement, ils peuvent installer des applications malveillantes et on va se retrouver avec un Mac troué alors que en fait c'est de la faute de l'utilisateur. Donc le premier outil à utiliser pour vos auditeurs, c'est quand même le bon sens, c'est pas de tout télécharger, de tout exécuter sur votre PC ou votre Mac.
C'est gentil pour nos auditeurs, ça fait plaisir.
Oui.
Après, pour les 25% qui n'ont pas d'antivirus,
ouais,
il y aura un lien dans la description.
Donc du coup,
ça dit rien.
Oh.
Allez.
De manière assez synthétique, si on doit un petit peu résumer et peut-être lister ce qu'un internaute lambda doit avoir ou pas pour se protéger. Félix, ce serait quoi toi la liste synthétique ?
Je peux dire ou pas ? Je peux dire ?
Non.
Vas-y,
Cyrus.
Non, le premier, moi je sais parce que j'ai parlé un peu avec Félix et tout. Et je pense que le premier, ce qu'il va dire, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le bon sens. C'est le truc le plus important, c'est vraiment genre toi, ton comportement quoi.
Est-ce que réellement cette princesse sénégalaise a besoin de mes 100 000 euros pour me rejoindre en France ? Typiquement, ça faut pas donner.
Voilà.
Faut se poser la question. Avant
de donc ouais, bon sens, antivirus.
Ouais, antivirus. Donc aujourd'hui sur Linux, il y en a quasiment pas. Mais sinon sur Mac et Windows, c'est quand même intéressant d'en avoir. Si vous voulez tout ce qui va être firewall, histoire de vous avertir qu'il y a des connexions sortantes qui devraient pas se passer. Ça c'est aussi intéressant pour découvrir des virus sur vos machines.
Adblocker potentiellement.
Okay. Ouais, ça peut vraiment servir.
Et un bon mot de passe, quelle fréquence de changement de mot de passe tu conseilles?
Essaie. Bonne question.
Deux trois tips rapidement pour avoir un bon mot de passe.
Un bon mot de passe, c'est un mot de passe complexe. Moi j'ai l'habitude d'utiliser des passe-phrases. Alors on va me dire oui, non mais moi on m'a dit que c'était un mot de passe compliqué avec plusieurs caractères un peu chelou, avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, etc. Ce qui est intéressant avec une passe-phrase, notamment si vous utilisez des mots qui ne sont pas du tout communs, c'est qu'on a 100 000 mots, et donc une passe-phrase, ça va jusqu'à 70 caractères, voire 100 caractères ou autre. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe à craquer.
Un paragraphe pour ce mot de passe.
Mais voilà, ouais, c'est des mots de passe où la grande règle, c'est qu'ils soient complexes, un minimum, on va dire, de une dizaine de caractères. Un peu plus, avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des nombres, et éviter de faire genre QWERTY 1, 2, 3, point d'exclamation, point d'exclamation, car même s'il remplit toutes ces conditions, il n'est pas complexe.
Moi, c'est Sarko 2012, ça va par exemple.
Ouais, voilà, c'est Sarko 2012.
Point d'exclamation, nickel.
C'est une indignité. Non, mais voilà, on a ça, et après, en termes de renouvellement du mot de passe, là, c'est cool, à peu près tous les 3 mois, ouais.
Moi, j'ai juste une pensée pour mon ami Arthur.
Qui est décédé ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Mais juste en termes de mot de passe, qui m'avait apporté le meilleur mot de passe que je connaissais. C'était à l'époque où on était au lycée et qu'il y avait un ordi dans la maison, tu sais, où du coup tout le monde y allait. Il devait y avoir un mot de passe quand même qui allait à toute la famille. Et je me connecte dessus et je lui dis, Arthur, c'est quoi ton mot de passe ? Il me dit, c'est souris. Je dis, pourquoi ? Premier truc que tu fais, c'est prendre la souris, t'y penses.
Voilà.
Et voilà, je trouve que c'était hyper poétique.
Très basique, Arthur. Il est
vraiment... Félix, t'en penses quoi ? Tu valides
ça,
le.
C'est pété. c'est pété en moins d'une seconde.
Voilà, merci Arthur pour ce moment.
Qu'on salue, enfin gros bisous.
Qu'on salue, bien sûr, gros bisous. Est-ce que c'est pas l'heure de passer au vote, Cyrus ?
Si.
It's vote time.
It's vote time.
Hey.
Donc on est là pour déterminer le meilleur hacking de
l'histoire.
De l'histoire, finalement.
De l'humanité.
C'est beau. Alors Tom, c'est toi qui mène.
J'avoue, on était là, on a pris les devants.
C'est vrai que c'est un podcast que j'ai un peu plus organisé que Tom pour une fois. Je suis un peu déstabilisé.
On s'est dit depuis que Internet a été créé, même avant, on en a parlé en début d'émission, le hacking existe. Il peut prendre plusieurs formes et l'idée c'était un petit peu de voir chacun quelle était celle qu'on considérait la plus réussie. Avec notre prisme à nous, c'est-à-dire pourquoi on trouve que celle-ci est la meilleure par rapport à une autre, sur quoi on se base, etc. Et potentiellement l'idée de faire découvrir des petites histoires du hacking à nos auditeurs. Hugo, je sais pas si tu veux ouvrir le bal peut-être.
Pas forcément. Mais si, faut,
Hugo, il m'a envoyé un texto paniqué tout à l'heure, juste avant le rec. Il m'a dit, mec, attends, qu'est-ce qu'on entend exactement par meilleur hacking?
Non, alors vas-y, je peux me plonger dessus. Mais alors justement, moi, c'est pas le meilleur dans le sens... Le meilleur pour la société. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est totalement l'inverse, je pense. Non, mais c'est plus le meilleur dans le sens où le truc a eu un impact assez fou, qui est encore difficile à mesurer, mais qu'on peut juger assez fou. Mais je sais pas, c'est un hacking au sens propre du terme. Pour moi, ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica part quand même d'une forme. Alors, je sais pas si c'est une forme de hacking. Parce que Netflix a fait son documentaire.
Faut que tu racontes ce que c'est.
Alors, justement, je vais raconter.
Yes.
Je vais essayer de résumer. Cambridge Analytica, qui est une société qui a travaillé avec plusieurs mouvements politiques, qui se saisit, pour faire très simple, d'une faille de sécurité sur Facebook pour récupérer un maximum de données sur les Américains et, à partir de là, créer des publicités ultra ciblées, c'est-à-dire qu'ils généraient, ils prenaient des slogans différents, des images différentes, des machins différents. Ils généraient des milliers de combinaisons de publicités pour cibler les Américains avec des publicités pour Donald Trump. Voilà, pour faire simple. Oui.
Alors, attends, j'ai une question déjà, parce que je crois apprendre quelque chose. Ils ont exploité une faille de sécurité. Il n'y a pas eu un accord entre Facebook n'a pas donné des données.
Alors, c'est là toute la complexité du truc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu Facebook qui n'a pas dit grand-chose, mais qu'au départ, ça vient d'une faille de sécurité via des trucs de système de quiz sur Facebook. Et donc, en fait, ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir accès aux données des amis et pas seulement des gens qui l'utilisent. Et ainsi de suite, ça s'est propagé.
C'était genre les quiz quel plat de pâte êtes-vous, par exemple?
C'est ce genre, ouais.
Ah, moi, je suis Tagliatelle.
Mais c'est ce genre de quiz un peu bidon, ouais.
Donc, c'était ça. Je pense qu'il y a eu un défaut en fait de sécurisation des données d'un point de vue Facebook où c'est ce que Hugo disait, c'était vraiment les internautes devaient remplir des quiz où il y avait des mini-jeux ou autres, et en fait en remplissant ces questionnaires, ça donnait accès à des données de certains de leurs amis. Et donc, le défaut, est-ce qu'il est de la part de Facebook? Oui, sûrement, parce que s'il y a eu autant de gens qui ont, on va dire, gueulé, c'est que certaines données devaient être assez confidentielles.
Est-ce que c'est un piratage? Est-ce que c'est un hacking? Parce que Netflix a fait un documentaire qui s'appelle The Great Hack à propos de Cambridge Analytica, mais est-ce que c'est un hacking?
On va dire que c'est de la créativité, quoi. C'est du gros hacker ou autre, je ne sais plus comment on dit ça. Ouais. C'est vraiment ça, c'est utiliser tous les moyens qu'on a pour avoir de la data. Et Cambridge Analytica était pas particulièrement bon là-dessus,
ouais. Et ouais, donc du coup, je sais pas, mais ça sinon j'ai d'autres, d'autres idées de hacking qui je trouve intéressant. Mais
Hugo, c'est ton choix,
vas-y. A eu un impact. Alors, c'est dur de déterminer.
Non, mais c'est pas mal. Comme choix, c'est pas mal, j'avoue.
De l'emporter.
Pourquoi c'est le meilleur selon toi? En résumant, juste en quelques points, t'as pensé.
C'est le meilleur, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est le plus important parce que.
Ça s'appelle pas le plus important podcast. J'aimerais que tu.
C'est la porte à côté. C'est juste à côté
le plus important podcast, c'est là-bas. Et bah, pas au bout du couloir parce que c'est pas vraiment ouf podcast. C'est pas génial, les.
Le pire podcast. Je trouve ça intéressant parce que ça a eu un impact à grande échelle, au-delà d'un seul individu. Et c'est quelque chose qui potentiellement est reproductible à l'avenir. On peut imaginer qu'il y aura d'autres failles de sécurité et d'autres méthodes qui vont être employées similaires. Et ça a déjà été le cas. Ça a été utilisé pour le Brexit, ça a été utilisé dans certains pays, en Asie notamment. Donc je trouve ça assez passionnant. Et voilà, ça m'intéressait. C'est un sujet qui m'intéresse et ça me semble intéressant de le mettre ici. Voilà.
Ouais, pas mal, tout à fait.
Pas mal. Bon point.
Beau participant.
Ouais.
Félix, c'est quoi pour toi le meilleur hacking?
Le meilleur hacking, alors d'un point de vue technique, ce qui est inégalable, c'est un peu ce que font des modes opératoires, notamment américains. où eux ils piratent des pirates pour accéder à des réseaux informatiques.
Wow.
Donc voilà. Et sans toucher, sans rien.
Ça commence mal, ça commence mal.
C'est assez beau. On a aussi.
C'est assez beau, j'adore.
Ouais. On a.
Un geste technique de Ronaldo, c'est incroyable.
on a aussi des groupes de cybercriminels qui sont très très forts. Dans ce domaine où eux, au lieu de s'attaquer aux clients des banques, ils vont attaquer les banques. Par exemple, on a un groupe qu'on a étudié beaucoup et qui officie toujours aujourd'hui. C'est le groupe Carbanac, où eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des...
Ils sont bretons, visiblement.
C'est ça. Tu connais le village de Carbanac,
c'est autre chose.
Et ce qu'ils faisaient, ces gens-là, donc c'est des cybercriminels russes ou ukrainiens, c'est un peu une galaxie de différents acteurs. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une technique qui s'appelle le jackpotting, c'est-à-dire qu'ils attaquaient les banques, donc ils rentraient dans les réseaux informatiques des banques, ils accédaient à distance aux distributeurs de billets, et ils actionnaient les distributeurs de billets pour qu'ils donnent tous leurs billets.
Waouh, wow. Romain des Bois, quoi. Oh là là.
Voilà. Bon, il y a l'argent qui sortait du truc.
Alors, ça allait pas à la population, ça allait aux mafias, donc c'est pas tellement Romain des Bois. Mais voilà, on estime leur perte aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars quand même.
Wow.
Plutôt leur gain, pardon, leur perte. Leur gain à plus d'un milliard de dollars. Et en fait, le problème de ce gang-là, c'est qu'ils ont un peu arrêté ce jackpotting. Maintenant, ils font des virements vers des comptes offshore ou autres, tout simplement parce que ils se sont fait plutôt leur mule, donc ceux qui devaient retirer les billets se sont fait arrêter. Donc ils se sont dit, les distributeurs de billets, il y a quand même un risque humain de se faire arrêter, donc on va préférer faire des virements de banque vers des comptes offshore que de faire cette technique du jackpotting.
Ok.
Et du coup, quel est pour toi le meilleur hacking ?
C'est les Bretons là ?
Je sais pas, mais ouais. Carbanac, et sinon après il y a des techniques de hack. On se retrouve aujourd'hui face à un problème, c'est vraiment l'informatisation de la société, et on a des sociétés par exemple qui vont, plutôt des gens qui vont émettre des faux communiqués de presse à destination d'autres sociétés, et quand les journaux vont recevoir ces communiqués de presse, ils vont quasiment les publier directement sans vérifier les sources ou autres, et on peut aboutir à des flash crash en bourse. Parce qu'ensuite, quand c'est publié directement, il y a des algorithmes.
C'est créatif.
Il y a des algorithmes financiers qui analysent les communiqués de presse. Et donc, la bourse chute sur certaines actions. Et là, ça part d'un mail. Donc, il n'y a plus du tout de code malveillant. C'est
là,
juste
une
usurpation d'identité. Ouais. Et ça, c'est plutôt grave. Ça rentre maintenant un peu dans tout ce qui est fake news ou autre. Mais ça a un impact économique énorme pour les sociétés visées. Ouais.
Pour toi, c'est ça ton vote ?
C'est élégant. C'est pas tellement technique,
y a même pas
mais c'est vraiment élégant.
Voilà, y a pas de connaissances techniques à avoir, voilà, c'est ça. C'est pas mal.
Pas mal.
Tom, c'est quoi toi ton... C'est moi qui vais ?
Non, vas-y, je peux y aller, pas de soucis. Moi, mon choix, il est du coup un peu chapeau blanc, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait plus tôt. Et c'est un cas de hacktivisme, donc du coup la contraction entre le hacking
tu
et l'activisme.
Tu peux refaire, s'il te plaît ?
Hacktivisme.
Ok, yes.
Hacktivisme.
Hacktivisme.
Yes. Donc c'est du hacktivisme. C'est le groupe Anonymous qui, du coup, pour rappel, est un groupe de hackers qui a émergé il y a 10 ans à peu près.
Ouais,
2008. Ouais.
Et du coup, donc c'est un crew de hackers qui est international, qui n'a pas réellement de forme de limite. On le compare souvent à un groupe d'oiseaux qui volent. C'est-à-dire, c'est un groupe d'oiseaux qui vont dans la même direction, mais il y a des oiseaux qui peuvent partir et re-rentrer. C'est pas défini, c'est pas normé. Il y a pas des gens.
Le poète, quoi.
Non, mais je sais plus qui disait ça. Je l'ai relu il y a pas longtemps.
C'est Paul Valéry, je crois.
Et ce que j'aime bien, quand bien même ils ont eu certaines actions qui étaient purement négatives et très intéressées, ils ont quand même fait énormément d'actions ciblées envers des entités qu'ils considéraient comme néfastes. Ils luttent énormément, surtout pour la liberté d'expression et la libre circulation des informations. Ils se sont fait connaître, ils ont émergé avec le mouvement contre l'église de Scientologie au début. Ça a été vraiment leur premier gros truc. Et moi, je voulais mettre en avant tout ce qu'ils ont fait autour du printemps arabe, notamment l'opération Tunisia. Ils ont été vachement importants dans toute cette révolte-là.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait plusieurs choses.
Vas-y.
Il faut savoir que déjà, ils étaient assez à l'écoute de ce qui se passait en Tunisie depuis Wikileaks, où ils ont été un des supports de Wikileaks, et ils étaient un peu au courant grâce au dossier tout ce qui se passait là-bas, ils surveillaient ça de près. Donc, ils ont piraté tout ça. Le gouvernement de Ben Ali qui était ultra censeur à l'époque et tout ça, a dit ok, ça va pas du tout, on se fait pirater, du coup on va aller bloquer les sites et les pages des réseaux sociaux des dissidents et des gens qu'on considère comme hostiles à notre gouvernement. Donc suite à ça, Anonymous a dit ok, très bien, on enclenche la phase 2. Ils ont créé deux choses que je trouve assez ouf. Déjà, ils ont utilisé leur intelligence collective pour développer un script, une extension de Firefox destinée à aider les Tunisiens à parer les attaques de phishing intensives opérées par le gouvernement tunisien. Donc, il leur permettait de se défendre et d'être alerte et justement de ne pas se faire hacker, etc. Ils ont relayé en masse le contenu des images des manifestations que le gouvernement essayait de bloquer. Et ils ont aussi mis au point un kit de secours traduit en français et en arabe qui informait les cyberdissidents sur la façon de préserver leur anonymat et des méthodes pour éviter d'être détectés par la cyberpolice de Ben Ali.
Énorme, wow. Solide.
Et je trouve ça assez ouf. Et tout ça avec toujours un peu d'humour, ce que j'aime bien, en faisant livrer des tonnes de pizzas aux ambassades tunisiennes de tous les pays. En gratuit, juste pour les faire chier à recevoir des centaines de pizzas chaque jour devant les ambassades. Et voilà, ils ont mis en place tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si ça peut faire peur, parce que c'est un groupe qui est pas facilement identifiable et qui a une portée assez grande, bah, je trouve que c'est quand même dingue que des gens aussi puissants et aussi nombreux arrivent à s'allier pour des causes considérées plutôt comme bonnes, qui est la lutte pour la circulation de l'information et la liberté d'expression. Et je trouve que notamment dans un truc historiquement aussi important que le printemps arabe, bah, je trouve qu'ils avaient leur place et qu'ils ont fait un truc hyper smart.
Pas wow. Mal.
J'ai bossé ou j'ai pas bossé?
Wow. Ouais, c'est un bon choix.
Il a bossé, allez. Il a bossé.
C'est un bon choix.
Cyrus, c'est quoi pour toi le meilleur hacking?
Alors, moi, c'est le hacking d'un site. Le site de Ashley Madison.
Ouais, c'était il y a 2-3 ans, ouais.
En gros, c'est un site de rencontre. Il me semble que c'est un site de rencontre extra-conjugale.
Ouais, un peu coquine.
C'est pas Madison Avenue?
Non.
Non?
Okay. Non, ça c'est une rue.
Ça marche.
Ça c'est une rue qui s'appelle la Madison Avenue.
Très bien. Dans ma tête, c'est ça.
Et non, c'est un peu comme Gliden.
Ok. Je trouve ça fou, ça d'ailleurs.
Ouais, je trouve ça.
Enfin, que on peut explicitement faire des pubs dans le métro qui disent venez ici pour tromper votre compagnon, quoi. Enfin,
et bah écoute, justement, ça a choqué, des hackers qui ont décidé de hacker le site. Il y avait 37 millions d'utilisateurs. Les hackers, ils ont divulgué toutes les infos, etc., machin, des utilisateurs. Et en fait, ce que ça a créé, ça a créé du coup évidemment de divorces, machin.
C'est ouf, n'empêche. Ceci, ah ouais. Il y a 37 millions, le nombre de gens qui ont dû le voir, il y a au moins des milliers ou des dizaines de milliers,
ouais,
de couples qui ont. C'est ouf.
Bah, ça a brisé des carrières aussi.
Ah ouais.
Tu vois, ça a détruit la réputation de plein de personnes. Et ça a aussi entraîné des suicides.
Ah ouais.
Tu vois, des gens qui ont eu leur vie.
Et ça, c'est le meilleur pour toi. Ouais. Génial, quoi.
Super.
Vraiment.
Est-ce que ça a permis à une population de se libérer de...
Mais mec, toi, t'as voté comme Commission Analytica.
Je sais, j'ai eu Commission Analytica, mais bon.
Et non, pour moi, je l'ai voté en tant que meilleur, mais je vais peut-être revoir mon choix suite à ce qui est sorti autour de cette table. Je l'ai mis en meilleur parce que j'ai trouvé ça ouf comme des gens qui imposent leur morale, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça ouf, voilà, ce groupe de personnes qui décident d'imposer sa morale et l'impact que ça a eu dans la vie de personnes qui sont suicidées, etc., tu vois, à l'échelle très individuelle au final, tu vois.
Ouais, ce qui est assez intéressant avec ce hacking, on le voit généralement quand il y a une base de données qui se fait exfiltrer, c'est qu'ensuite d'autres pirates informatiques profitent de ça pour faire de l'extorsion. Donc ils vont contacter les personnes en disant si vous me donnez pas, je sais pas, 500 pas de Bitcoin, mais peut-être 0,3 Bitcoin, je publie à votre conjointe l'ensemble des informations que j'ai de vous sur Ashley Madison.
Ah, c'est horrible.
Et généralement, en fait, le pirate passe jamais à l'acte, mais bon, il envoie 60 000 mails et directement les gens payent. Ah oui, oui.
Non, c'est du bluff.
Exactement.
Ouais. Tu bluffes Martoni. En même temps, malin. Hein.
Mais alors, c'est très drôle d'ailleurs. Je rebondis là-dessus. J'ai une pote qui nous disait qu'elle avait reçu un mail en mode ouais, j'ai eu accès à ta webcam, etc. Et j'ai vu sur quoi tu te je vais y aller, hein, mais sur quoi tu te masturbais, quoi.
Oh là là,
wow, wow,
ouais,
wow,
ouais, wow, voilà, on en parle, voilà.
Oh là là.
Ah, dis donc,
tout est moustillé.
J'imagine que t'as pas envie que ça se sache, mais si tu me payes pas, machin, je vais le dire, tu vois. Et elle nous a dit, mais heureusement que c'est tombé sur moi, parce que moi, je sais que j'ai absolument rien fait et j'y vais jamais. Et je sais que c'est totalement bidon, mais je me dis, il suffirait que ça tombe sur quelqu'un qui soit allé un peu sur des sites pornographiques, etc. Et genre, c'est fini, quoi. Le gars, il paye, c'est sûr.
Ouais, ça, on a énormément de problèmes comme ça, de gens qui bluffent. En fait, ils récupèrent tout simplement une liste d'emails. On a même des gens qui cèdent de base de données en disant, genre, j'ai piraté votre ordinateur, voici votre mot de passe. Ou en fait, ils l'ont à partir d'une autre fuite d'informations. Et ils vont contacter la personne en disant bah, j'ai votre mot de passe, donc j'ai vraiment accès à votre ordinateur. Voilà, si vous ne me donnez pas 500€, je publie tout. Et là aussi, c'est du bluff, parce que l'information de ce mot de passe-là et de l'adresse email est généralement publique. Elle se retrouve au cas devant sur Internet.
Ah, donc, en fait, j'ai l'impression que si tu vas en école de hacking, tu as vraiment une partie technique, mais tu as aussi vraiment une partie psychologique, une partie qui est purement juste manipulation psychologique. Quoi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, et c'est vraiment. Aujourd'hui, même sans vulnérabilité, sans rien, sans trop de technique, quelqu'un qui est très très fort en ingénierie sociale peut rentrer à peu près partout. Que ce soit physiquement dans des immeubles ou faire à peu près n'importe qui ce qu'il veut.
J'ai l'impression qu'ingénierie sociale, c'est le joli mot pour dire manipulation.
C'est ça. on a la classe ou on l'a pas ?
Je suis en train de.
C'est vraiment un truc de manipulateur de dire ingénierie sociale, par contre. De dire manipulation.
Je suis en train de penser à un truc, et si je le dis pas maintenant, je vais oublier. Est-ce que le micro aussi peut être piraté dans les ordinateurs ? Parce qu'on met pas de cache micro, tu vois.
Évidemment, tout peut être piraté. Là aussi, c'est des interfaces de programmation, donc n'importe quel malware peut avoir accès à votre micro.
Et pourquoi on met pas de... Comment on pourrait se protéger de ça ?
Ah bah là, ça, c'est un peu plus dur, ouais. Tu peux désactiver, encore, je sais même pas, mais ça... C'est possible, je pense, désactiver les drivers de ton micro.
Okay.
Et là, ce sera un peu plus dur pour un cybercriminel d'y accéder.
Parce que j'avais vu une photo de Mark Zuckerberg qui avait évidemment donc un cache webcam, mais il avait aussi un truc sur la prise jack de son ordi.
Une sorte de... Pas de, mais de...
Un truc qui était dans la prise jack, comme si pour faire dire à l'ordi que n'utilise pas le micro interne, il y a un périphérique, alors qu'en fait, il n'y en a pas.
Ouais, moi, j'ai aussi des potes qui enlèvent... le micro et tout ce qui va être webcam, plutôt webcam, caméra de leur téléphone. Et en fait, ils utilisent juste un kit main libre quand il y a vraiment besoin d'appeler.
Okay. Ah, ils l'enlèvent carrément.
Ouais, ils l'enlèvent physiquement, ouais.
Ils sont chauds.
Ah ouais. Genre sur leur téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de caméra selfie.
C'est ça.
Comment ils font pour les selfies ?
Ça sert.
Quelle étrange idée.
Ah là, c'est ouf.
C'est bizarre.
C'est possible.
Ouf, et en même temps, c'est sur-stylé,
c'est même sûr techniquement.
Bah après, ça sert à rien de l'enlever. Tu peux mettre un scotch. Et ils le font vraiment pour le style,
Ouais. C'est entre potes, quand on boit des bières, c'est toujours à celui qui a la plus grosse.
Qui est mieux protégé.
J'ai envie d'être dans ces soirées.
Moi, j'ai pas enlevé le téléphone de la boîte.
Pour pas qu'il y ait de virus sur mon écran, j'ai cassé mon écran. Comme ça, il n'y avait pas de.
Tu vas faire quoi ?
Voilà.
T'as un petit sparadrap, toi, sur ta webcam, Félix ?
Ouais.
C'est important.
C'est des petits sparadraps. Ouais, c'est trop important. Non, mais ouais. j'ai ça. C'est toujours une protection en plus, même si un cybercriminel cherche vraiment le gain direct. Et donc le retour sur investissement à peu près direct. Et là, le problème avec une webcam, c'est qu'il doit contacter la victime, etc. etc. pour la faire
du temps.
C'est ça.
Tom, est-ce que tu veux qu'on passe au vrai ou faux ?
Bien, écoute, j'ai envie de te dire, j'en meurs d'envie.
Allez, pour une fois, c'est moi qui ai fait le vrai ou faux.
Je suis content d'être joueur, c'est la première fois. Je suis à triper excité dans les réponses. Mais je
vous dis, la première réponse sera faux. Je le sens.
C'est vrai ?
Première réponse, faux.
Alors, donc ça va être une série de...
T'as hacké son téléphone, Hugo, c'est ça que t'es en train de dire ?
C'est une série de faits autour du hacking et il va falloir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a une attaque de hack toutes les 39 secondes.
Ah, je pense que c'est moins, non ? J'ai envie de dire faux.
Ouais, j'ai envie de dire faux, moi aussi.
Ah oui, c'est sûr et certain. C'est... Aujourd'hui, notamment avec les objets connectés, ils se font la guerre tout seuls sans même qu'il y ait d'intervention humaine. Donc ouais, c'est
alors,
faux.
Alors, écoutez, d'après le Security Magazine, c'est vrai.
Ah mais c'est l'article de 2006.
Mais du coup, vous me mettez le doute.
Ah, j'adore être de ce côté de la barrière.
Selon son directeur, le FBI a du mal à recruter des gens pour gérer la cybercriminalité, car aux USA, les experts de sécurité sont souvent grands consommateurs de marijuana.
Là, je vois pas le lien, mais vas-y, continue.
Est-ce que c'est vrai, d'accord,
c'est la prochaine question. C'est vrai.
C'est vrai.
Ouais, je pense que ça doit être vrai. Ça.
C'est faux.
Moi, je pense que c'est vrai parce que déjà, tu l'aurais pas acté comme ça si c'était faux. Mais peut-être je vais me tromper. Et en vrai, c'est pas incohérent parce que finalement, c'est un job qui est assez casanier. Enfin, où tu vois, où je me dis que c'est pas incohérent le fait de consommer du cannabis et d'avoir ce métier-là.
C'est totalement vrai.
Wow.
C'est totalement vrai. Kevin Mitnick est un hacker et dans sa condamnation, il a été 8 mois en isolement total. Parce que les autorités ont convaincu un juge du fait qu'il avait la capacité de déclencher une guerre nucléaire en sifflant dans le publiphone de la prison.
Quoi ?
Waouh.
En gros, ouais. je la refaire pour Hugo, voilà.
Non, mais j'ai compris la phrase, mais le fait de siffler dans un mégaphone. Bah,
ça simule.
Dans un publiphone. Alors, tu n'as pas l'âge parce que tu n'as pas cette génération-là. Mais en fait, un publiphone.
Oui, enfin, personne n'a 70 ans autour de la table non plus. Hein.
Mais mec, on a connu des publiphones, nous.
Publiphone ?
Bah oui, c'est les téléphones publics où tu payais.
Cabine. La cabine téléphonique,
c'est ça,
quoi.
On appelle ça un publiphone.
Ouais, ouais, a priori.
Le vrai nom, c'est publiphone, mais effectivement, cabine téléphonique. Je cherchais le nom tout à l'heure et tout.
Cabine téléphonique.
Ouais. J'ai fait... Et je trouvais pas, et j'ai trouvé publiphone. Effectivement, c'est cabine téléphonique.
Ça n'existe pas.
Si ça existe, mec, tu t'as publiphone, bien sûr.
Ah là là. Ouais.
Pendant l'occupation, quoi.
Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je pense que c'est une légende urbaine, même s'il y a énormément de choses vraies. Mais l'accumulation des informations, c'est une légende urbaine.
Moi, je dis Tom Félix.
Eh ben non, c'est vrai.
Oh,
beau.
C'est vrai, mais après, il est resté que 8 mois, parce qu'ensuite, on a expliqué au juge que c'était absolument pas possible, etc. Mais,
Est-ce que tu veux peut-être redire du coup le fait en entier, parce qu'il était dit il y a longtemps, j'ai l'impression.
Le fait, c'était que Kevin Mitnick, c'est un hacker, et dans sa condamnation, il a été 8 mois en isolement total, parce que les autorités ont convaincu un juge du fait qu'il avait la capacité de déclencher une guerre nucléaire en sifflant dans le publiphone de la prison.
C'est badass. Hein.
Ils ont rien compris.
Ouais. En gros, l'idée, c'est qu'en sifflant dans la cabine téléphonique, enfin dans le téléphone, il pouvait se connecter au modem de la NODAM.
Sûrement du NORAD. Ou
NORAD, autre, voilà, pardon, excusez-moi. NORAD. Et donc, du coup, lancer une guerre nucléaire. Oui, bah Tom, ok.
J'ai rien dit, attends.
Tu fais mieux, t'es vrai ou faux, d'accord.
Je t'en prie, continue.
Ah oui, voilà, pardon. NORAD.
Continue de lire sur ton publiphone. Je t'en prie.
Le cheval de Troie Coke faisait éjecter automatiquement le lecteur CD de l'ordinateur toutes les 10 minutes.
Oh, quel enfer. Ah, j'ai envie de dire que c'est faux, parce que ça ferait 4 vrais de suite et on s'est du jamais vu dans le vrai ou faux de cette émission, donc ça a l'air vrai, moi je dis vrai.
Moi aussi je pense que c'est vrai, c'est dans les vieux trucs un peu MS-DOS ou autre.
Ouais MS-DOS, des, pareil, je t'ai dit MS-DOS.
Trucs vraiment marrants en termes de virus où les mecs s'amusaient.
Juste à troller quoi.
Et ouais.
Et ben c'est faux.
Ah, oh, joli.
Mais effectivement,
c'était genre 9 minutes 30.
Pas coke.
Non mais ça. Non mais je me souviens d'une petite application sur Windows où en gros t'appuyais genre en mode pour recevoir ta canette et genre ça sortait le truc, mais c'était pas un virus quoi, c'était juste une application qu'on s'envoyait entre potes. Mais c'était pas un cheval de Troie qui faisait ça toutes les 10 minutes quoi. Hayden Pierce était réparateur informatique et il utilisait les ordinateurs de ses clients pour pirater des entreprises du Fortune 500. Vous voyez ce que c'est le Fortune 500?
C'est les 500 plus grosses entreprises
aux USA, ouais. Okay. Il s'est fait arrêter à cause de son stagiaire.
Le meilleur podcast est 472e, je crois. C'est juste pour préciser. Il s'est arrêté à cause de son stagiaire.
Ouais, je la refais.
Tom. Ouais, désolé.
Voilà, parce que.
Désolé, mais t'as ouvert une petite trappe à vanne.
Hayden Pierce était réparateur informatique et il utilisait les ordinateurs de ses clients pour pirater les entreprises du Fortune 500. Il s'est fait arrêter à cause de son stagiaire.
C'est vrai, et les droits ont été rachetés par Jude Law pour faire un film.
Bonne question, ça pourrait être vrai. Voilà, mais après, je me souviens pas de cette histoire.
C'est totalement faux.
Merde.
Et en fait, Hayden Pierce, c'est le personnage principal de Watch Dogs. Watch Dogs 1.
Ok,
je suis pas du tout joueur.
C'est ça la feinte, du coup.
C'est un jeu Ubisoft où en fait, t'es hacker.
Ouais.
Et je me souviens que j'avais écrit, parce qu'à l'époque, j'étais chez Ubisoft, et j'avais écrit au gars qui avait fait l'histoire du jeu. Et j'avais dit, est-ce que Hayden Pierce, ça veut pas dire Hide and Pierce?
Wow.
Il faut traduire du coup.
Donc se cacher et en même temps pénétrer, ce qui est un peu ce que fait le hacker quoi. Et le mec avait pas voulu me répondre pour garder du mystère, etc. Mais en gros, j'ai déduit.
Oh.
Voilà,
c'est toi qui as inventé la petite histoire derrière là.
Ouais.
C'est stylé hein.
Ouais.
Ça j'en ai devant une petite fiction.
Sean Parker a hacké une entreprise du Fortune 500 à 16 ans, mais il s'est fait arrêter à cause de son père.
Sean Parker, c'est le personnage de Crash Bandicoot, du coup. C'est vrai.
Eh ben c'est vrai.
Bien sûr.
Il a acquis une entreprise du Fortune 500 à 16 ans et en fait il s'est fait arrêter à cause de son père parce qu'il n'a pas pu se déconnecter quand il a fait son hacking car son père a débranché et confisqué son clavier.
Oh non. Ah mais ok, il s'est pas fait arrêter, c'est que son père a pas faim et son père était au courant de ce qu'il faisait.
Non mais du coup son adresse IP a donc été exposée et il a été retrouvé et arrêté par le FBI.
Oh l'enfer, wow. Le daron.
Bravo, vous en êtes très bien sorti. C'était bien Tom.
Merci,
ou pas?
Merci Cyrus, c'était hyper bien.
C'est vrai?
Ouais, c'était bien.
Merci, ça fait plaisir.
Le spin-off sur le... Ah putain, ça j'adore. Ça faut le faire.
Ça marche.
On est chaud.
Ok.
Est-ce que c'est pas l'heure de passer au vote final du meilleur hacking? On va refaire un petit tour de table. Est-ce que, selon vous, le meilleur hacking est celui que vous avez dit dès le début? Est-ce que vous voulez changer d'avis? C'est le moment du vote. Hugo, est-ce que tu restes sur ton choix?
Alors, rappelons juste déjà les quatre.
Ouais, bien sûr.
Là, j'en souviens.
Attends, Hugo, attends, du coup.
Ouais, Hugo, parce que les gens ne voient pas. Qui,
Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler le quel
mien,
était
le, mien,
le meilleur hacking pour toi?
Cambridge Analytica.
Félix,
moi,
pour
c'était
toi,
Money, 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 et c'était Carbanac.
À côté de Quimper. Cyrus?
Moi, c'était Ashley Madison. Et il y en a un autre que j'ai noté. Ah, parce qu'on a pas
oui,
dit.
Non, non, bah non. Alors, non, c'est pas là où on dernier non, moment, non. On en lance un dernier dans la joute. C'est fini, Cyrus.
Non, 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 mais c'est juste. Tu sais, des fois, on fait les, ceux qu'on a, oui, qui n'ont oui. pas participé. Là, c'est le virus Melissa. J'ai trouvé ça assez cool. Ça date de 1999. Okay. Et en fait, il y a 20% de la population des ordinateurs au monde qui était infectée.
Et ça faisait quoi comme virus?
Je sais plus. Je sais plus. Yes. Mais je trouve ça ouf okay. que 20%.
Oui, c'est beaucoup. Mais en même temps, si juste. Enfin, ça change rien. Si ça enlève un pixel de ton écran, par exemple.
Je regarde ce que ça fait. Non, oui, ça envoie juste le virus. Quand tu t'étais contaminé, ça envoyait le virus à tes 50 premiers contacts.
Ouais, voilà, sur Outlook ou autre.
Ok.
Ouais.
Ok.
Ils disent « The virus itself did not vandalize files or steal any passwords or information. »
Il était juste là, quoi.
C'est juste l'idée, c'est juste de flouder les emails.
C'est okay. comme les chaînes, c'est comme les chaînes qui servent à rien.
Genre ta chaîne, par exemple.
Oh. Ok, la violence.
Ah, ça va être l'intro de l'épisode.
Mec, horrible.
On va le mettre 10 fois de suite.
Ouais, on va mettre que ça. On va faire une capsule.
Je rigole, je rigole.
Bien sûr, on rigole, Hugo. C'est une très bonne chaîne.
Ok, ok, ok.
Bien sûr.
Pour tous les furies d'actualité.
Les furies d'actualité.
Bien sûr.
Donc, ouais, attends, on disait quoi là? Donc, Cambridge Analytica, l'histoire de la banque.
Ouais.
Tom,
la Tunisie.
Anonymous, opération Tunisia.
Anonymous, ouais.
Et Ashley Madison.
Moi, je dirais Ashley Madison parce que j'aime bien. Ce que je trouve intéressant, c'est que. Alors, surtout, ça peut.
Je suis dégoûté. Franchement, non, j'ai pris un choix. Fait... Non, Hugo, ça va se passer comme ça. Je suis allé chercher quelque chose qui a permis à un peuple d'exister par lui-même,
c'est
de
beau.
Libérer la parole. Et toi, juste les cocus, quoi.
Je m'explique.
Ah, je suis dégoûté.
Cambridge Analytica, c'est l'utilisation des données un peu pour le mal, en tout cas parce qu'il y a des fins de manipulation, de propagande, machin. Les révolutions en Tunisie, c'est plus dans un objectif de démocratie et de soulèvement, donc c'est intéressant, mais c'est un peu l'inverse.
Oui. Oui.
L'histoire de la banque, je trouve ça drôle, mais voilà. voilà. Avec tout le respect que j'ai
ouais.
pour cette.
Ouais, c'est chaud.
Et celui de Cyrus, ce que je trouve intéressant, c'est que ça pose la question. Je trouvais ça super intéressant là, les conséquences derrière sur la vie des gens et l'éthique du coup de ce point de vue là pour un hacker de le faire ou de ne pas le faire parce que eux jugent ça bien, mais ça peut avoir des conséquences peut-être mauvaises derrière. Et je sais pas, il y avait un
bravo,
débat
Hugo.
Derrière
bravo.
Qui était intéressant.
Bravo,
voilà, mais, okay. voilà.
Si vous nous écoutez en Tunisie, je suis désolé pour ce qui est en train de se passer.
Brigade,
on est avec vous les Tunisiens. Je suis désolé pour ce qui se passe, Félix. Alors, je t'explique comment ça se passe dans ce podcast. Soit on est, il y a un candidat qui a plus de voix. Donc là, potentiellement, si Cyrus, est-ce que tu changes d'avis déjà?
Attends.
D'accord. Si un candidat a deux voix, du coup, c'est lui qui est élu. Sauf s'il y a deux candidats à deux voix, à ce moment-là, il y a un vote final qu'on laisse à Internet. Ou soit il y en a un qui a trois voix ou quatre voix et c'est gagné.
Ah, il est passé avant.
Non, mais ça dépend quand il y a égalité en fait.
Ah, okay.
Quand
non, mais sachant
deux.
Que là, c'est le premier tour. Donc même s'il y en a égalité, il voilà. y aura un deuxième tour.
Donc,
et après,
Hugo, tu prends Ashley Avenue. Ashley Madison.
Madison,
yes. Félix.
Moi, ouais, Cambridge Analytica peut être pas mal aussi.
Bon, allez, moi aussi, Cambridge Analytica.
Allez.
Le retour.
Vas-y, mec.
Si je peux gagner.
Vendeur
je...
de tapis, celui-ci. Vendeur de tapis de souris, quoi.
Bah, je vais gagner sans avoir voté pour moi.
Si c'est pour un impact sociétal, je pense que Cambridge Analytica a beaucoup plus d'impact qu'Anonymous en Tunisie. Anonymous, c'était les comics.
Ok.
Mais donc, après, il n'y a aucune élégance.
Il n'y a pas, ouais, il n'y a pas cette élégance et cette créativité. Ouais, ouais. Mais,
il y a quand même les pizzas, quoi.
Anonymous
était plus élégant, si je peux me permettre.
Cyrus, quel est ton choix?
C'est compliqué parce que je trouve que ton choix est vraiment bien.
Merci.
Cambridge Analytica, je trouve ça pas mal aussi. L'élégance, c'était quoi là? Moi, ce que j'aimais, c'est pas le money money, parce que c'était pas ça que t'as choisi finalement, c'est le mail, là, le communiqué de presse.
Oui. Ah oui, il y a ça. Si ça, on l'ancre dans les trucs, ouais, pour moi, c'est ça qui est intéressant.
Et c'était quoi le nom?
Il n'y a pas de nom, il y a énormément de sociétés qui se font avoir, où par exemple, on a aussi des gens qui piratent des comptes Twitter, genre de la Maison Blanche ou n'importe quoi de la Society de presse. Où il marque, ouais. Il y avait eu par exemple Barack Obama, il y a eu une bombe à la Maison Blanche, Barack Obama a été blessé et là le Dow Jones a chuté.
Wow.
Et donc voilà,
donc
ça je trouve
c'est
ça
un mail
intéressant.
Qu'il fake comme si ça venait d'un truc officiel et hop.
Bah alors il y a soit des envois de mails, soit du piratage de compte Twitter de personnalités très importantes.
Ouais, en gros,
où là ça peut avoir
un piratage de contenu quoi, c'est diffuser un
c'est
contenu
ça.
En se faisant passer pour.
C'est de la fausse information.
Tu vois, genre si le podcast aurait été le meilleur procédé de hacking. j'aurais voté pour ça. Mais du coup, vu qu'on est sur un événement et un hiking en particulier, et en même temps, si je vote pour moi, je gagne.
Il vient de mon côté, Sirius.
Non, mais je pense que je vais voter Opération Tunisie.
Yes!
Oh là là.
Du coup, on est à 2 contre 2, ça veut dire?
Parce que.
Vous êtes sur Cambridge Analytica.
Attends, avant de prendre le vote, laisse-moi expliquer ce changement de.
Je t'en prie, Sirius, pardon. Même je t'ai excité.
Même si tu t'en tapes totalement.
Je m'excuse.
Non, mais parce que je trouve que. C'est vrai que l'impact positif que ça peut apporter, etc., et genre le fait de se battre pour une cause cool. Le problème de Ashley Madison, c'est que bah, déjà la cause elle est discutable. C'est-à-dire que même si moralement, effectivement, c'est, il faut être tu vois, la fidélité, etc., machin, même si c'est ce que dit la morale, est-ce qu'un gars mérite de tout perdre?
Mais c'est pour ça que c'est le meilleur, c'est le plus intéressant en fait. Non, mais
c'est suicidé, c'était super drôle.
C'est le plus controversé, c'est ça, c'est pour ça moi, que j'ai voté pour lui. Évidemment, je suis pas en train de dire ah, bien fait pour eux, ils
ont raison.
C'est le convaincu, c'est celui qui pose le plus des questions, je suis d'accord.
Exactement.
Moi, tu te rends compte, tous les gens qui sont offrés grâce à faire ça, pouvoir s'exprimer, montrer la réalité d'un pays, et ils ont fait au final fait tomber le gouvernement. Il a démissionné Ben Ali à la fin grâce à tout ça. Ils ont changé la face de leur pays, quoi. C'est fou, en vrai.
Yes, Ashley Madison, du coup.
Yes, c'est brigade, okay. Brigade ou quoi.
Ok, bah, je vous laisse conclure, du coup, sur le meilleur hacking.
Yes, et bah, du coup, le meilleur hacking, c'est le hacking du site Ashley Madison, qui a touché 37 millions de personnes. 37 millions, c'est énorme, quand même. Hein.
C'est quand même ouf.
Il y avait énormément de faux profils.
C'est 10 fois la population de la France. Pas du tout, c'est une vanne, c'est une vanne. Et là, vous coupez juste avant que je dise que c'est une vanne. Ouais.
Et voilà, je pense qu'on peut, ça peut s'applaudir. Bravo.
Ouais.
Bravo.
Non, bravo, oui, c'est le jeu. Mais bon.
C'est le jeu, mais,
c'est un peu triste,
mais pas loin, Tunisia, pas loin. Hugo, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur YouTube, sur Instagram, et puis voilà, essentiellement.
Il y a un... Donc, t'avais sur Instagram, j'invite tous les gens qui sont intéressés, je l'ai dit un peu sous le ton de la blague, mais en vrai, à suivre l'actualité. T'as un compte qui permet chaque jour d'avoir les 5 infos à retenir de la journée, et t'en as créé un second
sur le sport.
En anglais. Et sur le sport
et
aussi.
Alors en anglais,
voilà,
en anglais
ça n'arrête pas.
Il y a un compte sur le sport où chaque jour on poste un résumé des 5 actus sport du jour sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous êtes passionné de sport, ça peut vous aider. Le nom c'est Hugo Décrypte Sport, et pour l'autre c'est Hugo Décrypte tout court. Ouais, on a fait très simple.
Non, mais
le...
c'est des très bons comptes à suivre.
Est-ce que tu peux en faire un où genre juste tu parles de botanique et ça s'appelle Hugo Décrypte Sport mais S-P-O-R-E-S?
Oh
voilà, c'est possible
ou pas?
Ouais. Ouais. Juste pour la vanne, elle était bien travaillée, quoi.
Elle a mis du temps à venir.
C'était un très bon jeu d'ordi d'ailleurs, sport.
Oui, excellent jeu. Où tu devais créer une espèce petit à petit.
Exactement.
Génial.
Ah, ça, je connais pas. Et Félix, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que t'as une actualité
sur les réseaux?
Et si c'est pas la tienne, celle de Kaspersky?
Je fais rarement des conférences publiques. Généralement, c'est entre chercheurs. Mais vous pouvez me retrouver sur Twitter, où ce que je publie, c'est quand même assez technique, ou sur de la géopolitique, vu que mon domaine a l'idée de. Donc, voilà.
On te trouve dans la qualité de Kaspersky, si je peux me permettre aussi, dans la qualité de ces antivirus incroyables.
je travaille en lien aussi avec les équipes de développement des antivirus, notamment sur tout ce qui est signature ou procédé de détection. Ouais.
Ok, Chamé, et d'ailleurs on les remercie encore une fois pour ce podcast.
Ils ont rendu possible ce podcast, merci,
merci
Kaspersky.
Beaucoup. Tom, où est-ce qu'on se retrouve nous?
On se retrouve, alors, la question se pose.
Ouais.
Il y a des chances que peut-être on se retrouve la semaine prochaine.
Ah ouais?
Vous verrez, mais
fou,
vous écouterez, on espère. Sinon dans 2 semaines, plus tard, mais on essaie de faire en sorte que ce soit la semaine prochaine.
Ah ça serait génial.
Voilà, ça ferait plaisir.
Et dites-nous aussi à nos éditeurs sur Twitter, etc., si ça vous a plu, ce truc de sondage, etc., et... Voilà, si vous avez des retours là-dessus. Et
si vous êtes d'accord avec moi pour le choix du meilleur.
Yes.
Yes.
Allez, on se quitte en chanson.
On se quitte en chanson comme d'habitude.
Simply the best. Down, 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 down.
Ashley.